Les dernières paroles. Évangile selon Jean, chapitre 13. Préface. Le simple exposé qui suit ne prétend rien ajouter aux nombreux commentaires parus sur cette précieuse portion de l'Écriture. L'auteur n'a ni l'érudition ni la capacité nécessaire pour une telle tâche. Son but n'est pas l'étude des textes, mais l'édification du lecteur, en l'incitant à méditer avec prière ces dernières paroles du Seigneur. Le titre « Les dernières paroles » a été choisi comme assez vaste pour inclure la dernière prière aussi bien que les derniers entretiens du Seigneur avec ses disciples. Dans ces dernières paroles, nous entendons, comme quelqu'un l'a dit, la voix de Jésus se perpétuer au cours des siècles, aussi fraîche aujourd'hui qu'alors dans la chambre haute à Jérusalem. C'est une voix intensément humaine dans ses accents de réconfort et d'affection, tout en restant absolument divine dans ses révélations et dans son autorité. Cet exposé n'aura pas été écrit en vain si, par son moyen, un enfant de Dieu est attiré plus près de celui dont nous entendons la voix dans les dernières paroles. Jean chapitre 13. Introduction. Verset 1er.
Lecture de la parole. Or, avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue pour passer de ce monde au Père, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'à la fin.
Lecture de l'étude. Le premier verset du chapitre 13 introduit les derniers entretiens de notre Seigneur. Il indique l'occasion qui a donné lieu à ces paroles d'adieu, ce qui, chez les siens, les a rendues nécessaires et le motif qui a amené le Seigneur à les prononcer. L'occasion était qu'enfin son heure était venue pour passer de ce monde au Père. Au cours de la vie de notre Seigneur sur cette terre, nous avons rencontré d'autres heures. À Cana de Galilée, il pouvait dire à sa mère « Mon heure n'est pas encore venue, l'heure de sa manifestation en gloire au monde. » Au chapitre 5, nous lisons « L'heure vient, et elle est maintenant, que les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront, l'heure de sa grâce envers les pécheurs. » En présence de l'inimitié de l'homme, nous lisons par deux fois que personne ne mit la main sur lui parce que son heure n'était pas encore venue, l'heure de ses souffrances. Ici, cette heure, l'heure qui introduit les paroles d'adieu, a un autre caractère. Ce n'est pas l'heure de sa grâce envers les pécheurs, ni l'heure de ses souffrances pour eux. Ce n'est pas non plus l'heure de sa manifestation en gloire au monde. C'est plutôt l'heure de son retour dans sa gloire auprès du Père, dans l'amour et la sainteté de la maison du Père. Mais les disciples allaient être laissés dans un monde de corruption qui haïssait le Père et rejetait Christ. Si donc ils doivent être gardés du mal existant dans le monde qu'ils traversent, et jouir pourtant de la communion avec Christ, dans la demeure d'amour et de sainteté du Père, ils vont avoir besoin de ce dernier ministère de grâce, avec ses consolations, ses instructions et ses avertissements. De plus, nous apprenons le motif qui a conduit le Seigneur à ce dernier acte de grâce, à prononcer ses paroles d'adieu et à faire monter la prière finale. Si l'occasion était son départ auprès du Père, le motif résidait dans son amour pour les siens. Lui va quitter ce monde, mais il y a ceux qui sont laissés dans le monde, ceux que le Seigneur se plaît à appeler les siens. Ils sont un groupe de croyants sur la terre qui appartiennent à Christ dans le ciel. Ils sont les siens, comme fruit de sa propre œuvre. Ils sont les siens comme ceux que le Père lui a donnés. Ils peuvent n'avoir que peu d'importance aux yeux du monde, mais ils sont très précieux aux yeux du Seigneur. Ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'à la fin. Il allait les quitter, mais il ne cesserait pas de les aimer. Souvent l'amour humain s'altère. Nous nous quittons, nous nous oublions et nous cessons de nous intéresser les uns aux autres. Le prophète déclare qu'une femme peut même oublier son nourrisson, mais l'Éternel dit « Moi, je ne t'oublierai pas » Ésaïe 49, verset 15. Si le Seigneur s'en va de ce monde, il n'oubliera pas les siens, ni ne cessera de les aimer. Hélas, nos cœurs peuvent se refroidir à son égard, nos mains se lasser de faire le bien, nos pieds s'égarer. Mais nous pouvons être assurés d'une chose, jamais lui ne nous fera défaut. Son amour nous portera et prendra soin de nous jusqu'à la fin, et à la fin, son amour nous recevra dans la demeure éternelle de l'amour, où il n'y a ni cœur froid, ni main qui se lasse, ni pied qui s'égare. Ainsi, alors que nous approchons des scènes finales du séjour du Seigneur avec ses disciples, pour considérer le dernier acte, écouter les dernières paroles et entendre la dernière prière, la parole nous rappelle l'occasion qui a provoqué ce ministère final, le besoin qui le rendait nécessaire et l'amour qui y a pourvu. Avant d'entrer dans le détail de ces derniers discours, il peut être utile de suggérer quelques pensées quant au caractère général des vérités présentées et à l'ordre dans lequel elles sont développées. On remarquera qu'au chapitre 13, les disciples sont placés dans les relations qui conviennent les uns à l'égard des autres. Ils ont à se laver les pieds les uns aux autres et à s'aimer les uns les autres. Au chapitre 14, ils sont mis dans les relations appropriées envers les personnes divines, le Fils, le Père et le Saint-Esprit. Au chapitre 15, ils sont placés dans les relations qui conviennent au cercle chrétien en vue de porter du fruit pour le Père et rendre témoignage à Christ dans un monde d'où il est absent. Au chapitre 16, ils sont instruits quant aux choses à venir en vue de leur pèlerinage au travers d'un monde hostile par lequel ils sont haïs, incompris et persécutés. On verra ainsi qu'au chapitre 13, les pieds des disciples sont lavés. Au chapitre 14, leur cœur est consolé. Au chapitre 15, leurs lèvres sont ouvertes pour témoigner. Et au chapitre 16, leur esprit est instruit, afin qu'ils ne soient pas découragés par les persécutions qu'ils peuvent être appelés à rencontrer. On remarquera en outre qu'il y a une progression dans l'instruction. La vérité présentée dans un chapitre prépare la révélation nouvelle du chapitre suivant. Le service du chapitre 13 prépare les disciples à la communion avec les personnes divines, telle qu'elle est présentée au chapitre 14. La communion avec les personnes divines dans leur sphère propre, à l'intérieur, prépare les disciples à porter du fruit et à rendre témoignage dans le monde, la scène extérieure présentée dans le chapitre 15. Puis le fruit et le témoignage du chapitre 15 conduisent à la persécution à laquelle le Seigneur prépare les disciples par la vérité du chapitre 16. Le développement de ces grandes vérités ne suffit néanmoins pas à les maintenir dans ce monde comme les représentants de Christ. La prière est nécessaire. Ainsi, les entretiens avec les disciples se terminent par la prière au Père rapportée dans le chapitre 17. Le lavage des pieds. Jean chapitre 13, versets 2 à 17.
Lecture de la parole. Et pendant qu'ils étaient à souper, le diable, ayant déjà mis dans le cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, de le livrer, Jésus, sachant que le Père lui avait mis toutes choses entre les mains, et qu'il était venu de Dieu et s'en allait à Dieu, se lève du souper et met de côté ses vêtements, et ayant pris un linge, il s'en ceignit. Puis il verse de l'eau dans le bassin et se met à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Ils viennent donc à Simon-Pierre, et celui-ci lui dit, « Seigneur, me laves-tu, toi, les pieds ?» Jésus répondit et lui dit, « Ce que je fais, tu ne le sais pas maintenant, mais tu le sauras dans la suite. » Pierre lui dit, « Tu ne me laveras jamais les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'as pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, non pas mes pieds seulement, mais aussi mes mains et ma tête. » Jésus lui dit, « Celui qui a tout le corps lavé n'a besoin que de se laver les pieds, mais il est tout net. Et vous, vous êtes nets, mais non pas tous, car il savait qui le livrerait. C'est pourquoi il dit, « Vous n'êtes pas tous nets. » Quand donc il eut lavé leurs pieds et qu'il eut repris ses vêtements, s'étant remis à table, il leur dit, « Savez-vous ce que je vous ai fait ? Vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc, moi, le seigneur et le maître, j'ai lavé vos pieds, vous aussi vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple, afin que, comme je vous ai fait, moi, vous aussi vous fassiez. En vérité, je vous dis, l'esclave n'est pas plus grand que son seigneur, ni l'envoyé plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes bienheureux si vous les faites. »
Lecture de l'étude. Le Seigneur ne pouvait plus être le compagnon de ses disciples dans leur pèlerinage sur la terre, mais il ne cesserait pas d'être leur serviteur dans sa nouvelle position au ciel. Aussi, dans la scène qui suit, décrite dans les versets 2 à 17, nous avons un acte de grâce qui, tout en mettant fin au service d'amour du Seigneur envers les siens sur la terre, préfigure le service qu'il accomplirait pour les siens lorsqu'il aurait pris sa nouvelle place dans la gloire. S'il ne peut plus avoir part avec nous personnellement dans le sentier de l'abaissement, il fera en sorte que nous puissions avoir part avec lui dans sa position de gloire. Voilà, pensons-nous, la portée de cet acte plein de grâce du lavage des pieds. Tout au long de sa vie parfaite, la pensée qui était dans le Christ Jésus était l'oubli de soi-même dans le service d'amour pour les autres. Et dans ce dernier acte, tout en ayant devant lui l'ombre sinistre de la croix, le Seigneur s'oublie encore lui-même afin de servir les siens. Les versets 2 et 3 introduisent cet humble service en montrant d'une part sa profonde nécessité et, d'autre part, combien le Seigneur était parfaitement qualifié pour l'accomplir. La nécessité du lavage des pieds est rendue évidente par le fait que les disciples vont être laissés dans un monde où le diable et la chair sont unis dans une hostilité acharnée contre Christ. La mention de la trahison de Judas au début de cette scène, comme aussi un peu plus loin du reniement de Pierre, montre clairement que la chair, que ce soit dans un pécheur ou dans un saint, n'est qu'un instrument à la disposition du diable. Les convoitises non jugées de la chair avaient ouvert le cœur de Judas aux suggestions du diable. Trahir son ami, et cela par le témoignage de l'amour, est quelque chose de repoussant même pour l'homme naturel. Mais le désir indomptable de satisfaire la convoitise prépare le cœur à recevoir une suggestion qui est contraire à la nature et ne pouvait venir que du diable. En face de cet effroyable déploiement de la puissance de la chair et du diable, la perspective d'être laissé dans un monde mauvais, avec la chair à l'intérieur et le diable à l'extérieur, avait bien de quoi épouvanter le cœur des disciples. Mais immédiatement, le Seigneur relève leurs cœurs en les détournant de la chair et du diable, et en les dirigeant vers lui et vers le Père, pour leur apprendre que le Père avait mis toutes choses entre les mains de Christ. Un grand pouvoir est entre les mains du diable qui nous hait, mais toute autorité est dans les mains de Christ qui nous aime. Et non seulement toute autorité avait été donnée à Christ, mais il allait au siège de l'autorité. Il était venu de Dieu et il s'en allait à Dieu. Tout en ressentant avec sa sensibilité parfaite la trahison d'un faux disciple et le reniement prochain d'un vrai disciple, le Seigneur n'en demeurait pas moins dans la calme conscience que toute autorité était entre ses mains et qu'il allait au siège de l'autorité. De même, il voudrait que nous traversions ce monde mauvais dans la conscience qu'il a toute autorité et qu'il se trouve dans le lieu où elle s'exerce. En outre, non seulement le Seigneur est au siège même de l'autorité et a toute autorité entre ses mains, mais dans la scène qui suit, il nous fera savoir qu'il se plaît à l'exercer en notre faveur. Celui qui a toute autorité entre ses mains est celui qui a tout l'amour dans son cœur. C'est ainsi que, mu par l'amour de son cœur, lui qui a toute autorité entre ses mains va prendre entre ses mêmes mains les pieds souillés de ses disciples fatigués du chemin. Le Seigneur de tous devient le serviteur de tous. Versets 4 et 5. Pour accomplir ce service de grâce, il se lève du souper. Il se lève du souper de la Pâque qui parle de son association avec nous dans les gloires du royaume. Luc, chapitre 22, versets 15 et 16.
Et il leur dit, « J'ai fort désiré de manger cette Pâque avec vous avant que je souffre, car je vous dis que je n'en mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. »
Il se lève du souper pour accomplir l'acte qui conduit à notre communion avec lui dans les gloires célestes. Dans la perfection de sa grâce, il se ceint d'un linge pour cet ultime acte de service et, versant de l'eau dans un bassin, il se met à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Versets 6 et 7. Ils viennent donc à Simon-Pierre. Si les autres acceptent, muets de surprise, le service du Seigneur, Pierre, avec son caractère impulsif, donne libre cours à ses pensées. Il parle à trois reprises, révélant chaque fois son ignorance de la pensée du Maître. Dans sa première question, il désapprouve l'humble service du Seigneur. Dans sa deuxième intervention, il le refuse catégoriquement. Dans la dernière, il s'y soumet, mais d'une façon impulsive qui dépouillerait ce service de toute sa signification profonde. Néanmoins, comme quelqu'un l'a dit, si nous sommes avertis par les erreurs des disciples, combien plus sommes-nous instruits par les réponses qui les corrigent. Dans la réponse du Seigneur, nous trouvons le sens spirituel profond de cet ultime service. Pierre ne pouvait comprendre que le Seigneur s'abaissât à laver ses pieds souillés dans la marche. Aussi, ses premières paroles sont-elles une protestation mêlée de surprise. « Seigneur, me laves-tu, toi, les pieds ?» Le Seigneur répond, « Ce que je fais, tu ne le sais pas maintenant, mais tu le sauras dans la suite. » Nous apprenons ainsi qu'à ce moment, il n'était pas possible aux disciples de discerner la signification spirituelle de l'acte du Seigneur. Plus tard, lorsque le Saint-Esprit serait venu, tout serait rendu clair. Il est donc évident que ce service ne visait pas, comme on le dit souvent, à donner une leçon d'humilité par un acte d'humilité suprême de la part du Seigneur. Pierre n'aurait pas eu besoin d'attendre un jour futur pour discerner l'humilité de l'acte. Ses paroles mêmes montrent que l'humilité du Seigneur occupait toutes ses pensées à ce moment-là. Verset 8. Sans être arrêté par la réponse du Seigneur, qui aurait dû l'amener à garder le silence jusqu'au dans la suite où tout serait éclairci, Pierre dit maintenant avec détermination « Tu ne me laveras jamais les pieds ». Le Seigneur, dans sa grâce patiente, passant par-dessus ce manque d'égard, corrige l'impulsivité de Pierre en disant « Si je ne te lave, tu n'as pas de part avec moi ». Toute brève que soit cette réponse, nous pouvons voir, maintenant que nous avons reçu l'Esprit, qu'elle donne la signification spirituelle du lavage des pieds. Celui-ci symbolise le service actuel du Seigneur par lequel il débarrasse notre esprit de tout ce qui nous empêcherait d'avoir part avec lui. Remarquons que le Seigneur ne dit pas « une part en moi ». Le service du lavage des pieds est certes précieux, mais jamais il n'assurerait la part en Christ. Il a fallu pour cela l'œuvre plus grande de la croix qui, une fois accomplie, ne peut jamais être répétée. Par cette œuvre plus grande, la part en Christ a été à jamais assurée à tout croyant. Le lavage des pieds est la présentation symbolique sur la terre d'un service continué dans le ciel, un service qui rend les croyants sur la terre capables d'avoir communion avec Christ dans le ciel. Car les paroles du Seigneur « Pars avec moi » ne signifient-elles pas communion avec lui dans ce lieu qu'est la maison du Père? Il y a certes le fait béni que le Seigneur s'approche de nous et s'entretient avec nous dans nos maisons, comme dans cette occasion où il entra dans la maison à Emmaüs. Mais une part avec lui renferme la pensée plus bénie encore que nous pouvons avoir communion avec lui dans sa maison. Ce fut le cas pour les disciples d'Emmaüs quand, le même soir, ils trouvèrent le Seigneur au milieu de ses saints réunis à Jérusalem. Les paroles du Seigneur à Laodicée ne présentent-elles pas aussi cette double vérité lorsqu'il peut dire « Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi ». Il semblerait en outre que le lavage des pieds n'est pas strictement un symbole du service de notre Seigneur comme avocat, ni de sa grâce sacerdotale, bien qu'il touche à la nature des deux. L'œuvre sacerdotale du Seigneur a en vue nos infirmités. Le service d'avocat du Seigneur s'occupe des péchés effectifs dans le chemin. Le lavage des pieds ranime l'âme assoupie et réchauffe les affections que les occupations quotidiennes peuvent refroidir, entravant ainsi la communion avec Christ là où il est. La fatigue et la faiblesse physique peuvent nous empêcher d'être un témoin pour Christ ici-bas. Sa grâce sacerdotale s'emploie alors à nous soutenir dans nos infirmités. Hélas, nous pouvons aussi avoir des défaillances et péchés, de manière à ne plus être en état de témoigner pour Christ. L'avocat restaure alors l'âme. Mais si les affections se sont refroidies sans rien même peut-être qui trouble la conscience, il en résulte un grave obstacle à la communion avec Christ, et alors le service du lavage des pieds intervient pour enlever l'obstacle. Il y a encore cette différence entre le service d'avocat et le lavage des pieds. Le service d'avocat restaure notre âme là où nous sommes, tandis que le lavage des pieds restaure notre esprit dans la communion avec Christ, là où il est, lui. Au jour de la marche d'Israël dans le désert, les sacrificateurs devaient se laver les pieds avant d'entrer dans le tabernacle. Ils auraient certes pu être en ordre pour le peuple, pour le camp et pour le désert, mais la présence de l'Éternel exigeait un état qui ne pouvait être assuré que par le lavage des pieds. Aussi la cuve était-elle à l'entrée de la tente d'assignation. Exode 30, versets 17 à 21.
Et l'Éternel parla à Moïse, disant, « Tu feras aussi une cuve d'airain et son soubassement d'airain pour s'y laver, et tu la mettras entre la tente d'assignation et l'autel, et tu y mettras de l'eau, et Aaron et ses fils y laveront leurs mains et leurs pieds. Quand ils entreront dans la tente d'assignation, ils se laveront avec de l'eau, afin qu'ils ne meurent pas, ou quand ils s'approcheront de l'autel pour faire le service, pour faire fumer le sacrifice fait par feu à l'Éternel. Ils laveront leurs mains et leurs pieds, afin qu'ils ne meurent pas, et ce leur sera un statut perpétuel pour Aaron et pour sa semence en leur génération. »
Exode 40, versets 30 à 32.
« Et il plaça la cuve entre la tente d'assignation et l'autel, et y mit de l'eau pour se laver. Et Moïse et Aaron et ses fils y lavèrent les mains et les pieds. Lorsqu'ils entraient dans la tente d'assignation et qu'ils s'approchaient de l'autel, ils se lavaient, comme l'Éternel l'avait commandé à Moïse. »
Versets 9 à 11. Quelle est donc la nature du service symbolisé par le lavage des pieds? La réponse à la première remarque de Pierre a montré qu'il a une signification spirituelle. La réponse à sa deuxième intervention nous révèle le but qu'il a en vue. Enfin, la réponse à sa dernière remarque indiquera clairement la nature du service ou la façon de l'accomplir. Ayant quelque peu saisi la valeur bénie du lavage des pieds, Pierre revient maintenant sur sa déclaration péremptoire que le Seigneur ne lui laverait jamais les pieds. Poussé par son affection réelle pour le Seigneur, et avec son impulsivité coutumière, il dit « Seigneur, non pas mes pieds seulement, mais aussi mes mains et ma tête. » Même si sa remarque trahit de l'ignorance, elle exprime certainement une affection qui apprécie cette part avec Christ. Le Seigneur répond « Celui qui a tout le corps lavé n'a besoin que de se laver les pieds, mais il est tout net. » Dans l'Écriture, l'eau typifie souvent l'effet purificateur de la parole de Dieu. À la conversion, la parole est appliquée par la puissance de l'Esprit, produisant un changement complet et communiquant une nature nouvelle qui transforme entièrement les pensées, les paroles et les actions du croyant. Cette transformation est exprimée par ces mots du Seigneur, « tout le corps lavé ». Ce grand changement n'a pas à être répété. Pourtant, ceux qui ont ainsi tout le corps lavé peuvent souvent se lasser dans leur esprit. De même que les pieds du voyageur sont souillés et fatigués par la poussière de la route, ainsi le croyant confronté avec la routine de la vie journalière, les devoirs de famille et les charges de la vie professionnelle, en plus du conflit constant avec le mal, éprouve souvent de la fatigue spirituelle qui entrave sa communion avec Christ et les choses qui le concernent. Non qu'il ait fait quelque chose que la conscience est à reprendre et qui réclamerait la confession et le service de l'avocat, mais son esprit est accablé et a besoin d'être récréé. Christ se plaît à donner un tel rafraîchissement si nous voulons bien confier nos pieds à ses mains. Si nous nous tournons vers lui, il rafraîchira notre âme en se présentant lui-même devant nous, dans toutes ses perfections, par sa parole. Ainsi, par les réponses pleines de grâce du Seigneur à Pierre, nous apprenons le caractère spirituel de ce service, le but qu'il a en vue et comment il s'accomplit. Hélas, il y avait là quelqu'un pour qui il n'aurait aucune signification. Car le Seigneur doit dire « Vous, vous êtes nets, mais non pas tous, car il savait qui le livrerait. C'est pourquoi il dit « Vous n'êtes pas tous nets ». Le traître n'avait jamais eu tout le corps lavé. Il n'était pas régénéré et, dans cet état, comment pourrait-il jouir du rafraîchissement apporté par le service plein de grâce du Seigneur, dont il n'éprouvait même pas le besoin? Versets 12 à 17. Après avoir accompli ce service et repris sa place à table, le Seigneur continue à nous enseigner quant au service du lavage des pieds. Bien qu'étant essentiellement son propre service, il l'accomplit néanmoins souvent par l'intermédiaire des siens. Nous sommes ainsi placés sous l'obligation, et nous avons aussi le privilège, de nous laver les pieds les uns aux autres. Service béni, accompli non pas en cherchant à nous corriger l'un l'autre, aussi nécessaire que cela soit parfois, encore moins en nous critiquant mutuellement, mais en nous présentant Christ, chacun l'un à l'autre, tant il est vrai que seule la présentation de Christ apportera du rafraîchissement à une âme lassée. Des années après cette scène dans la chambre haute, l'apôtre Paul nous dira qu'un des caractères qui recommande la veuve pieuse est qu'elle a lavé les pieds des saints. 1 Timothée 5, verset 10.
Ayant le témoignage d'avoir marché dans les bonnes œuvres, si elle a élevé des enfants, si elle a logé des étrangers, si elle a lavé les pieds des saints, si elle a secouru ceux qui sont dans la tribulation, si elle s'est appliquée à toute bonne œuvre.
Certes, cela n'implique pas qu'elle s'occupait seulement de reprendre le mal ou de corriger les fautes, mais plutôt qu'elle rafraîchissait l'esprit abattu des saints en venant de la part de Christ et pour présenter Christ. Onésiphore n'a-t-il pas lavé les pieds de l'apôtre Paul? Car l'apôtre écrit à son sujet « Il m'a souvent consolé et n'a point eu honte de ma chaîne » de Timothée 1, verset 16. Et Philémon ne s'est-il pas acquitté de cette obligation envers ses frères? Car Paul peut lui dire « Les entrailles des saints sont rafraîchies par toi, frère. » Épître à Philémon, verset 7. Le Seigneur lui-même n'a-t-il pas accompli directement ce service béni lorsqu'il dit de nuit à son serviteur Paul lassé « Ne crains point, parce que je suis avec toi. » Actes 18, verset 9 et 10.
Or le Seigneur dit de nuit dans une vision à Paul, « Ne crains point, mais parle et ne te tais point, parce que je suis avec toi, et personne ne mettra les mains sur toi pour te faire du mal, parce que j'ai un grand peuple dans cette ville. »
Enfin, le lavage des pieds ne se limite pas à rafraîchir l'âme lassée. Il réjouit aussi le cœur de celui qui accomplit ce service. Car le Seigneur peut dire, « Si vous savez ces choses, vous êtes bienheureux si vous les faites. » Le départ du traître. Jean chapitre 13, versets 18 à 30.
Lecture de la parole. Je ne parle pas de vous tous, moi je connais ceux que j'ai choisis, mais c'est afin que l'Écriture soit accomplie, celui qui mange le pain avec moi a levé son talon contre moi. Je vous le dis dès maintenant, avant que cela arrive, afin que, quand ce sera arrivé, vous croyez que c'est moi. En vérité, je vous dis, celui qui reçoit quelqu'un que j'envoie me reçoit, et celui qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé. Ayant dit ces choses, Jésus fut troublé dans son esprit et rendit témoignage et dit, « en vérité, je vous dis que l'un d'entre vous me livrera. » Les disciples se regardaient donc les uns les autres, étant en perplexité, ne sachant de qui ils parlaient. Or, l'un d'entre ses disciples, que Jésus aimait, était à table dans le sein de Jésus. Simon Pierre donc lui fait signe de demander lequel était celui dont il parlait. Et lui, s'étant penché sur la poitrine de Jésus, lui dit, « Seigneur, lequel est-ce ? » Jésus répond, « C'est celui à qui moi je donnerai le morceau après l'avoir trempé. » Et ayant trempé le morceau, il le donne à Judas Iscariote, fils de Simon. Et après le morceau, alors Satan entra en lui. Jésus donc lui dit, « Ce que tu fais, fais-le promptement. » Mais aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi il lui avait dit cela, car quelques-uns pensaient que, puisque Judas avait la bourse, Jésus lui avait dit « Achète ce dont nous avons besoin pour la fête », ou qu'il donna quelque chose aux pauvres. Ayant donc reçu le morceau, il sortit aussitôt. Or il était nuit.
Lecture de l'étude. Recevoir les communications spirituelles requiert toujours une condition spirituelle. Ainsi, le lavage des pieds était une préparation nécessaire pour ceux qui allaient entendre les dernières paroles du Seigneur, si riches en vérité divine et en consolation spirituelle. Il y en avait cependant un parmi eux qui n'avait jamais eu tout le corps lavé, sur qui le lavage des pieds n'avait eu aucun effet, et pour qui les enseignements de Jésus n'auraient eu aucune signification. La présence de Judas complotant dans son cœur la trahison qu'il allait consommer jette une ombre sinistre sur le petit groupe des disciples. Avant que le Seigneur puisse leur communiquer ses dernières instructions, ou que les disciples puissent les recevoir, Judas devait quitter la chambre haute et sortir dans la nuit. Versets 18 à 20. La manière dont il est écarté montre la tendre sollicitude du Seigneur pour les siens. La trahison de Judas, connue depuis longtemps par le Seigneur, est découverte avec beaucoup de douceur à ses disciples. Au cours du lavage des pieds, le Seigneur avait fait allusion à Judas sans que les onze ne le remarquent, semble-t-il. Maintenant, il s'exprime plus clairement, disant « Je ne parle pas de vous tous. Moi, je connais ceux que j'ai choisis. » Il y avait là un cercle intime des compagnons choisis du Seigneur, auxquels il allait révéler les secrets de son cœur. Mais quelqu'un était là qui n'y avait pas sa place, quelqu'un au sujet duquel l'Écriture avait dit « Celui qui mange le pain avec moi » a levé son talon contre moi. Cette révélation était bien propre à donner un choc aux disciples et à éprouver leur foi. L'incrédulité raisonneuse aurait pu arguer. Nous ignorions la présence du traître. Mais si Jésus ne la connaissait pas, est-il vraiment le Seigneur de gloire? Le Seigneur ne s'arrête pas à d'éventuels raisonnements de cette sorte. Il soutient leur foi en leur révélant à l'avance la trahison toute proche. Il dit, « Je vous le dis dès maintenant, avant que cela arrive, afin que, quand ce sera arrivé, vous croyez que c'est moi. » Par la trahison de Judas, ils auront une preuve nouvelle qu'il est véritablement le grand « Je suis », auquel rien n'est caché, et pour qui le futur est présent. D'une part, il ne sera pas permis que la présence et l'acte du traître ternissent la gloire du Seigneur. D'autre part, la chute totale de l'un des douze n'invalidera pas le mandat des onze restants. Ce mandat serait maintenu dans toute sa force. Aussi le Seigneur peut-il dire « Celui qui reçoit quelqu'un que j'envoie me reçoit, et celui qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé ». Face à l'horrible péché de Judas, la gloire du Seigneur demeure intacte et le mandat des onze n'est pas altéré. Versets 21 et 22. Il faut néanmoins davantage pour faire comprendre aux disciples la terrible réalité de cette révélation et pour ôter Judas du milieu d'eux. Le Seigneur leur dira clairement la nature du péché et finalement leur découvrira l'homme qui va l'accomplir. Ces révélations supplémentaires troublèrent profondément l'esprit du Seigneur. Il fut troublé dans son esprit, et rendit témoignage et dit, « en vérité, je vous dis que l'un d'entre vous me livrera. » Les disciples apprennent ainsi, d'un langage qui ne pouvait prêter à confusion, que l'un d'entre eux va trahir le Seigneur. Ils doivent regarder en face ce fait terrible, l'occasion même que recherchait un monde hostile, et que les adversaires de Jésus n'arrivaient pas à trouver, par crainte du peuple, surgirait du milieu d'eux, dans la personne de quelqu'un qui ne craignait ni Dieu, ni le peuple, quelqu'un qui avait passé pour un disciple du Seigneur, qui avait été son compagnon de tous les jours, qui avait vu toutes ses œuvres de puissance et écouté, sans en être touché, ses paroles de grâce et d'amour. Une telle révélation troubla le Seigneur dans son esprit et suscita les questions anxieuses des disciples qui se regardaient les uns les autres, étant en perplexité, ne sachant de qui il parlait. Verset 23. Se regarder les uns les autres ne va pas résoudre cette question solennelle. Le traître est là. Il se sait découvert par le Seigneur, mais il ne manifeste aucun signe qui le démasquerait devant les autres. C'est vers le Seigneur qu'ils doivent se tourner pour être délivrés de cette terrible incertitude. Le disciple qui interroge le Seigneur doit être quelqu'un de proche de lui. Le plus près est celui qui peut se désigner comme étant l'un d'entre ses disciples que Jésus aimait. Conscient de l'amour du Seigneur pour lui et se confiant dans cet amour, Jean se trouve dans le sein de Jésus. Le disciple dont, un instant auparavant, les pieds avaient été dans les mains de Jésus, repose maintenant sa tête sur sa poitrine. Ne pouvons-nous pas dire que cette position de communion intime est le résultat même du lavage des pieds? La tête, appuyée sur ce cœur d'amour, fait suite au lavage des pieds opéré par ses mains d'amour. Versets 24 et 25. Simon-Pierre, le disciple au cœur brûlant qui, si souvent et de tant de manières, semble dire « Je suis le disciple qui aime le Seigneur », n'était pas assez prêt pour questionner le Seigneur. Il fait signe à Jean de demander lequel était celui dont il parlait. Tout simplement, Jean demande « Seigneur, lequel est-ce ?» Verset 26. Le Seigneur répond aussitôt « C'est celui à qui moi je donnerai le morceau après l'avoir trempé. » Il n'est pas dit « un morceau » comme s'il s'agissait d'un simple acte accidentel, mais le morceau, en rapport avec une coutume bien définie, consistant à offrir à un hôte qu'on voulait honorer le morceau de choix du repas. Le Seigneur, donnant suite à sa parole, tend le morceau à Judas Iscariote, et ainsi, non seulement la trahison est prédite, mais le traître est démasqué. Verset 27. Déjà la convoitise avait ouvert le cœur de Judas à la suggestion du diable. Maintenant, Satan lui-même prend possession de Judas. S'il restait en celui-ci la moindre parcelle de conscience, le moindre sentiment de honte, le moindre recul devant le péché qu'il allait commettre, tout est réduit au silence par l'entrée de Satan. Avec Satan, il n'est pas d'hésitation. Judas devient désormais l'instrument impuissant de ses desseins. Pour Judas, il n'y a maintenant plus de retour possible. Aussi le Seigneur peut-il lui dire « Ce que tu fais, fais-le promptement ». Versets 28 à 30. Les 11, stupéfaits, semble-t-il, par cette terrible révélation, n'arrive pas à saisir la signification des paroles du Seigneur. La bourse ayant été confiée à Judas, il pense que les paroles du Seigneur doivent avoir un rapport avec la charge de pourvoir aux besoins de la fête ou de donner quelque chose aux pauvres. Judas, lui, a très bien compris. La présence du Seigneur est devenue insupportable à cet homme possédé par le diable, de sorte que, ayant reçu le morceau, il se lève aussitôt et, sans un mot, sort dans la nuit pour s'enfoncer, quelques heures après seulement, dans une nuit plus obscure, l'horreur des ténèbres profondes, d'où il n'y a point de retour. On a remarqué que, tout au long de cette scène si solennelle, il n'y a aucune condamnation de Judas. Pas un reproche ne lui est adressé. Il n'est pas sommé de sortir. Il ne lui est pas enjoint de s'en aller. La présence d'un faux disciple est révélée. Le péché qui va être commis est annoncé. L'homme qui le commettra est désigné. Puis, au milieu d'un silence plus terrible que des paroles, celui-ci quitte la lumière qui était trop pénétrante, la sainte présence qu'il ne pouvait plus supporter, et s'enfonce dans la nuit à laquelle ne succédera jamais aucun matin. Souvenons-nous que, si ce n'était la grâce de Dieu et le sang précieux de Christ, nous suivrions tous Judas dans la nuit. Dieu glorifié en Christ, chapitre 13, versets 31 à 38.
Lecture de la parole. Lors donc qu'il fut sorti, Jésus dit, « Maintenant le Fils de l'homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera en lui-même, et incontinent il le glorifiera. Enfant, je suis encore pour un peu de temps avec vous. Vous me chercherez. Et comme j'ai dit aux Juifs, là où moi je vais, vous, vous ne pouvez venir, je vous le dis aussi maintenant à vous. Je vous donne un commandement nouveau, que vous vous aimiez l'un l'autre, comme je vous ai aimé, que vous aussi vous vous aimiez l'un l'autre. À ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour entre vous. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, où vas-tu ? » Jésus lui répondit, « Là où je vais, tu ne peux pas me suivre maintenant, mais tu me suivras plus tard. » Pierre lui dit, « Seigneur, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant ? Je laisserai ma vie pour toi. » Jésus répond, « Tu laisseras ta vie pour moi. En vérité, je te dis, le coq ne chantera point que tu ne m'aies renié trois fois. »
Lecture de l'étude. Le départ de Judas dissipa l'ombre qui pesait sur la petite compagnie. L'esprit troublé du Seigneur fut soulagé, et le malaise des disciples apaisé. Les mots « Lors donc qu'il fut sorti » marquent ce changement. Judas avait quitté la lumière de la chambre haute et était sorti dans les ténèbres du monde extérieur. Lui partit à l'intérieur. La lumière brille d'autant plus vive et les ténèbres à l'extérieur sont épaissies par sa présence. La porte qui se referme sur le traître, c'est le dernier lien entre Christ et le monde qui se rompt. L'atmosphère est purifiée et seul avec ses disciples, il est libre de dévoiler les secrets de son cœur. Versets 31 et 32. Le Seigneur s'en va au Père. Les siens vont être laissés comme témoins pour Christ dans un monde qu'il a rejeté. Au cours de ces derniers entretiens, les disciples vont être mis en contact avec le ciel. Chapitre 14. Il leur sera indiqué comment porter du fruit sur la terre. Chapitre 15. Et ils seront fortifiés pour résister à la persécution de la part du monde. Chapitre 16. Des privilèges et des honneurs aussi élevés réclament une œuvre préliminaire de la part de Christ et une préparation chez les siens. Aussi avons-nous ici des paroles d'introduction qui présentent Dieu glorifié en Christ sur la terre, Christ glorifié comme homme dans le ciel, et les saints laissés sur la terre pour glorifier Christ. Ces grandes vérités ouvrent la voie à toutes les révélations subséquentes. Toute bénédiction pour l'homme, là-haut comme ici-bas, durant toute l'éternité, repose sur les grandes vérités fondamentales qui sont placées devant nous dans le début de cet entretien. Le Seigneur se présente comme le Fils de l'homme, et, en relation avec ce titre, il proclame trois vérités d'une importance vitale. 1. Maintenant le Fils de l'homme est glorifié. 2. Dieu est glorifié en lui. 3. Dieu aussi le glorifiera en lui-même. Il vaut bien la peine de se pencher sur ces grandes vérités pour chercher à apprendre quelque chose de leur signification profonde, car leur réception par la foi forme dans l'âme la base solide de toute croissance et toute bénédiction spirituelle. La première grande vérité, c'est que maintenant le Fils de l'homme est glorifié. Cela place devant nous la perfection infinie du Fils de l'homme, le Sauveur. Il est question des souffrances du Fils de l'homme à la croix, et il est déclaré que, dans ses souffrances, le Fils de l'homme est glorifié. Être glorifié pour une personne implique que toutes les qualités qu'il exalte soient déployées. À la croix, toutes les perfections infinies du Fils de l'homme ont été manifestées au plus haut degré. Au chapitre 11 de Jean, nous lisons que la maladie de Lazare était pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Là, la gloire du Fils de Dieu a été manifestée par la résurrection d'un homme d'entre les morts. Ici, la gloire du Fils de l'homme est vue en ce qu'il entre dans la mort. La puissance sur la mort manifeste la gloire du Fils de Dieu, la soumission jusqu'à la mort, la gloire du Fils de l'homme. En réponse au désir des gentils de le voir, Jésus avait déjà dit « L'heure est venue pour que le Fils de l'homme soit glorifié ». Mais là, le Seigneur anticipait les gloires du royaume. Ici, il parle des gloires plus insondables de la croix. Dans l'avenir, comme Fils de l'homme, il recevra la domination, la gloire et un royaume éternel. Et dans ce grand jour, toute la terre sera remplie de sa gloire. Daniel 7, versets 13 et 14.
Je voyais dans les visions de la nuit, et voici quelqu'un comme un fils d'homme vint avec les nuées des cieux, et il s'avança jusqu'à l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui, et on lui donna la domination, et l'honneur, et la royauté, pour que tous les peuples, les peuplades et les langues le servissent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas, et son royaume un royaume qui ne sera pas détruit.
Psaume 72, verset 19.
Et béni soit le nom de sa gloire à toujours, et que toute la terre soit pleine de sa gloire. Amen. Oui, amen.
Même ainsi, les gloires excellentes du royaume à venir n'excéderont pas. Elles ne peuvent même égaler ces gloires beaucoup plus grandes de Fils de l'homme sur la croix. La gloire de son trône terrestre est dépassée par la gloire de sa croix ignominieuse. Le royaume manifestera ses gloires officielles. La croix rend témoignage à ses gloires morales. Au jour de son règne, toutes les dominations le serviront et lui obéiront, et toutes choses lui seront assujetties en tant que Fils de l'homme. Au jour de ses souffrances, il a été, lui, l'homme obéissant et soumis. Certes, chaque étape de son chemin témoigne de ses gloires morales, car celles-ci ne pouvaient être cachées. Mais à la croix, ses gloires ont brillé de tout leur éclat. Celui qui avait appris l'obéissance à chaque pas du chemin a été finalement mis à l'épreuve par la mort et manifesté obéissant jusqu'à la mort et à la mort de la croix. La soumission parfaite à la volonté de son Père qui avait caractérisé sa marche trouve son déploiement le plus brillant à l'approche des ombres de la croix, lorsqu'il peut dire « Que ce ne soit pas ma volonté mais la tienne qui soit faite ». Chaque pas rendait témoignage à son amour parfait pour le Père, mais le témoignage suprême de son amour paraît lorsque, à la vue de la croix, il peut dire « Afin que le monde connaisse que j'aime le Père, et selon que le Père m'a commandé, ainsi je fais ». Sa nature sainte, qui était sans souillure et ne pouvait être souillée par le monde pécheur qu'il traversait, est vue dans sa perfection lorsque, anticipant l'horreur d'être fait péché, il peut dire s'il est possible que cette coupe passe loin de moi. En vérité, à la croix, ses gloires morales, son obéissance, sa soumission, son amour, sa sainteté et toutes ses autres perfections ont été pleinement manifestées. C'est là que les paroles du Seigneur ont eu leur accomplissement. Maintenant, le Fils de l'homme est glorifié. Ainsi, la première grande affirmation place devant nous la perfection infinie du Fils de l'homme, de notre Sauveur, celui qui a glorifié Dieu en tant que grand sacrifice propitiatoire. Et si nous saisissons la portée de cette déclaration qui nous parle de la perfection de Jésus, nous voyons combien il est digne de notre confiance pleine et entière. En présence d'une telle beauté morale, personne ne peut dire qu'il y avait en lui la moindre imperfection qui aurait rendu impossible de se confier en lui. Ses perfections pleinement manifestées le révèlent comme celui dont toute la personne est désirable, paré de toutes les magnificences qui le rendent digne de notre confiance. Cantique des Cantiques, chapitre 5, verset 16.
Toute sa personne est désirable, telle est mon bien-aimé, telle est mon amie, fille de Jérusalem.
Considérer le Fils de l'homme à la croix, le voir glorifié par la manifestation de toutes ses perfections infinies, nous prépare pour la deuxième grande affirmation. Dieu est glorifié en lui. Tous ont déshonoré Dieu, mais enfin voilà un homme, le Fils de l'homme lui-même, parfait dans sa gloire morale, qui est à même d'entreprendre une œuvre qui glorifie Dieu. Et pour glorifier Dieu, il doit être fait péché et pénétrer dans le domaine de la mort. Les cieux racontent la gloire de Dieu, comme Créateur, avec une sagesse et une puissance infinies, mais ils ne peuvent raconter la gloire de son être moral. Pour cela, il faut que le Fils de l'homme souffre, afin que par ses souffrances, chacun des attributs de Dieu reçoive son expression la plus élevée. Par la croix, la majesté de Dieu est revendiquée, la vérité de Dieu est maintenue, la justice de Dieu est constatée dans le jugement du péché. La sainteté qui exigeait un tel sacrifice et l'amour qui y a pourvu brillent de leur éclat le plus vif. Certes, le Fils de l'homme, par ses souffrances, a glorifié Dieu. Cette grande œuvre conduit à la troisième grande affirmation. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera en lui-même, et incontinent il le glorifiera. Si Dieu a été glorifié en Christ, Dieu donnera une preuve éternelle de la satisfaction qu'il a trouvée dans l'œuvre de Christ. Christ glorifié comme homme dans la gloire est la seule réponse adéquate à son œuvre sur la croix et est la preuve éternelle de la satisfaction de Dieu dans cette œuvre. Dans la première affirmation, « Maintenant le Fils de l'homme est glorifié », nous découvrons la perfection du Fils de l'homme. Dans la deuxième, « Dieu est glorifié en lui », nous voyons la perfection de son œuvre. Dans la troisième, « Dieu aussi le glorifiera en lui-même », nous avons la pleine satisfaction de Dieu dans cette œuvre. Nous avons un Sauveur parfait qui a accompli une œuvre parfaite à la parfaite satisfaction de Dieu. D'autres passages nous montreront que ce Sauveur parfait, cette œuvre parfaite et la parfaite satisfaction de Dieu sont disponibles pour tous, car nous lisons qu'il s'est donné lui-même en rançon pour tous, et l'entière satisfaction de Dieu en Christ et en son œuvre permet à Dieu de dire, par lui, vous est annoncée la rémission des péchés. Acte 13, verset 38. Verset 33. La glorification du Fils de l'homme va impliquer la séparation d'avec les disciples. Le Seigneur, dans sa sympathie parfaite, entre dans la peine qui remplit le cœur des disciples à la pensée d'être séparés de celui qu'ils avaient appris à aimer. À maintes reprises, avec des accents de tendresse humaine, il fera allusion à cette séparation inévitable et préparera leur cœur à la rupture prochaine des liens terrestres qui les unissaient à leur maître. Voir chapitre 14, verset 4.
Et vous savez où moi je vais, et vous en savez le chemin.
Chapitre 14, versets 28 et 29.
Vous avez entendu que moi je vous ai dit, je m'en vais et je viens à vous. Si vous m'aviez aimé, vous vous seriez réjoui de ce que je m'en vais au Père, car mon Père est plus grand que moi. Et maintenant, je vous l'ai dit avant que cela arrive, afin que, quand ce sera arrivé, vous croyiez.
Chapitre 16, versets 4 à 7.
Mais je vous ai dit ces choses afin que, quand l'heure sera venue, ils vous souviennent que moi je vous les ai dites. Et je ne vous ai pas dit ces choses dès le commencement, parce que j'étais avec vous. Et maintenant, je m'en vais à celui qui m'a envoyé, et aucun d'entre vous ne me demande « Où vas-tu ?» Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Toutefois, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que moi je m'en aille. Car si je ne m'en vais, le Consolateur ne viendra pas à vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai.
Chapitre 16, verset 28.
Je suis sorti d'auprès du Père, et je suis venu dans le monde. Et de nouveau je laisse le monde, et je m'en vais au Père.
Jamais auparavant le Seigneur ne s'était adressé aux disciples en les nommant « enfants ». C'est un terme dans la langue originale, exprimant une affection pleine de compassion. Ainsi, avec une tendre sollicitude, il introduit le sujet de la séparation imminente. Encore un peu de temps, il serait avec eux. Le Seigneur retournait dans la gloire par un chemin que personne ne pouvait emprunter. Plus tard, des croyants pourraient suivre même dans le martyre ce chemin de la mort, mais pas de la mort telle que le Seigneur aurait à la rencontrer, c'est-à-dire comme jugement du péché. C'était là un chemin à l'égard duquel le Seigneur pouvait déclarer « Là où moi je vais, vous, vous ne pouvez venir ». Versets 34 et 35. La séparation imminente signifierait en outre que les disciples seraient privés du lien puissant que constituait entre eux la présence personnelle de celui que tous ils aimaient. Aussi le Seigneur donne-t-il un commandement nouveau. Que vous vous aimiez l'un l'autre, comme je vous ai aimé. On a suggéré que le Seigneur qualifie ce commandement de « nouveau » en contraste avec le commandement ancien, bien connu de ses disciples juifs, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Le commandement nouveau dit « Que vous vous aimiez l'un l'autre, comme je vous ai aimé ». Christ a aimé d'un amour qui, tout en n'étant jamais indifférent au mal, a néanmoins triomphé de toute la puissance du mal. Si nous nous aimons l'un l'autre selon le modèle du grand amour du Christ, nous ne tolérerons pas le mal l'un dans l'autre, mais nous trouverons un moyen de traiter le mal sans cesser de nous aimer l'un l'autre. Seul le lien de l'amour selon le modèle divin gardera unis entre eux des croyants ayant chacun sa personnalité propre, avec les différentes nuances de caractère et les tempéraments divers. Une compagnie de personnes unies par l'amour serait chose si étrange dans une scène gouvernée par la convoitise et l'égoïsme que le monde même réaliserait que de tels gens ne peuvent qu'être disciples de Christ. Le monde ne peut pas apprécier la foi et l'espérance du cercle chrétien. En revanche, il peut voir et admirer, à défaut de pouvoir les imiter, l'amour divin et ses effets. Ainsi, un groupe caractérisé par l'amour les uns envers les autres, selon le modèle de Christ, deviendrait un témoin pour Christ dans un monde d'où celui-ci est absent, de sorte que Christ, s'il est glorifié dans le ciel avec le Père, serait glorifié dans les saints sur la terre. Versets 36 à 38. La scène finale, bien que concernant Pierre, contient un avertissement pour tous. Si les disciples sont laissés dans le monde pour glorifier Christ, qu'ils prennent garde d'oublier que chacun d'eux a la chair en lui, toute prête à renier Christ. Simon-Pierre, insensible apparemment au commandement nouveau et ne pensant qu'à la séparation imminente, demande, comme pour résister à ce qu'il ne comprend pas, « Seigneur, où vas-tu ? » Le Seigneur répond, « Là où je vais, tu ne peux pas me suivre maintenant, mais tu me suivras plus tard. » Le Seigneur allait connaître la mort comme martyr, par la main d'hommes iniques, mais, chose bien plus terrible pour son âme sainte, il allait entrer dans la mort comme ayant été la sainte victime sous la main de Dieu. C'était là, certes, un chemin où lui seul pouvait s'engager. Pierre ne pouvait le suivre dans cette voie. Plus tard, dans les années qui viendraient, Pierre aurait le grand honneur de suivre le Seigneur dans le chemin du martyre. Fort de son amour pour le Seigneur, Pierre, très sûr de lui, affirme « Je laisserai ma vie pour toi ». Il s'attire ainsi l'avertissement solennel du Seigneur. « en vérité, je te dis, le coq ne chantera point que tu ne m'aies renié trois fois. » Si la chair dans un faux disciple peut trahir le Seigneur, elle peut, chez un vrai disciple, renier le Seigneur. N'oublions cependant pas que l'amour du Seigneur a triomphé du reniement de Pierre, car, comme nous l'avons vu, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'à la fin. Aveuglés par la confiance que nous avons en nous-mêmes, nous pouvons aller jusqu'à renier le Seigneur, mais nous sommes aimés du Seigneur d'un amour qui ne nous abandonnera pas. Verset 34. Je vous donne un commandement nouveau, que vous vous aimiez l'un l'autre, comme je vous ai aimé, et que vous aussi vous vous aimiez l'un l'autre. À ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour entre vous. Tu nous aimes, Seigneur, comme t'aime le Père. Ton amour tout-puissant couvre notre misère et soutient notre faible cœur. Tu l'as offert, Jésus, le sang qui purifie. Oui, par amour pour nous, tu quittas cette vie, que par amour tu pris, Seigneur. Et près de la quitter, à cette heure suprême, tu nous dis, « Aimez-vous comme moi je vous aime. Donne-nous d'aimer comme toi, afin que dans les tiens le monde reconnaisse ta vie et ton amour. Accorde-nous sans cesse de te contempler par la foi. »